avec des chiffres qui donnent le tournis, 3 livres et 1 million d'exemplaires vendus en une seule année, traduits dans plus d'une vingtaine de langues. Vos apparitions télé sont toujours un événement, vos conférences attirent les foules. Comment ça va?
Je suis crevé et je me réjouis d'arriver le 8 juillet parce que là, j'arrête, je pose mon crayon et je vais un peu souffler. Voilà, mais pas avant le juillet.
Mais ça vous fait quoi tout ça? Parce que vous le dites souvent, j'en reviens même pas.
Non, moi j'en reviens pas, je comprends même pas. Je comprends, d'abord je comprends pas que les gens s'intéressent à mes bouquins, donc ça c'est déjà pour moi une interrogation. Hein. Je leur demande, mais pourquoi vous aimez mes livres? Et ils me donnent des réponses qui sont, peut-être de moi des clés de compréhension de ce qui se produit, mais c'est pas pour autant que je comprends quand même. Hein.
Ils disent quoi par exemple?
Ils disent que les histoires sont courtes, donc c'est facile à lire et... Tu peux facilement passer d'une histoire à une autre, et puis tu peux laisser le bouquin pendant un mois, tu reviens un mois plus tard, t'es pas obligé de te reprendre au début, t'es dans une nouvelle histoire, donc ça c'est bien. En même temps, c'est le même qui vous disent qu'ils ont lu le bouquin, ils ont commencé, ils ont pas su le déposer, ils sont lus jusqu'au bout. Hein. Donc c'est un peu particulier. Puis il y a ceux qui me disent que le ton dans mes livres est un peu humoristique, un peu cynique, et que c'est une manière aussi de se foutre de la mort. Hein. Et c'est quelque chose qui me plaît, moi, ça.
De rire de la mort.
Mais oui, évidemment. La mort, il faut rire d'elle avant qu'elle ne nous sourie, comme je dis toujours. Pourquoi? Parce que la vie est hyper triste si on imagine qu'un jour, si on ne voit que ça, qu'un jour on va mourir. Au contraire, et c'est d'ailleurs quand on fait de la mythologie grecque, on se rend compte que les dieux grecs sont jaloux de nous. Pourquoi? Parce que eux sont immortels, alors que nous savons que nous allons mourir. Ça veut dire que nous allons profiter de la vie, ceux qui sont incapables de faire, parce qu'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de perte. Donc c'est, moi je trouve ça complètement génial. Là, je vous avoue, la mort, je la tutoie et je m'en fous. La mienne, j'ai réglé le problème.
Ouais, pas peur de ça.
Pas peur du tout. J'ai peur de la manière. Il y a des manières dont j'ai pas envie. Brûler vif, noyer, c'est des trucs que j'aime pas.
Mais au-delà de ça,
voilà. A priori, on n'aime pas. Ouais.
Et puis il y a la troisième chose. Ils me disent que ce sont des histoires vraies. Alors l'histoire est vraie. Oui, si on veut. En fait, l'histoire sur le fond médico-légal, c'est juste. Mais l'histoire tout autour est romancée parce que. Et on parlait d'éthique tout à l'heure. C'est un de vous deux qui a parlé. C'est vous. J'ai dit qu'il avait parlé d'éthique. L'éthique, c'est un truc important. J'ai pas envie que les gens se reconnaissent. Alors vous allez me dire, le mort, peu de chance. Oui, mais il y a sa famille. Il y a sa famille, et ne fût-ce que par respect pour les familles, ben voilà, on ne va pas les reconnaître nécessairement. Quoi.
J'ai quand même de reciter le nom de vos trois premiers livres, Les morts ont la parole, Entretien avec un cadavre, et puis La mort en face. Alors a priori, ça pourrait refroidir quand même les gens, pas du tout.
Ça cartonne.
Pourquoi ça nous fascine autant, la mort?
C'est le seul événement de la vie pour lequel personne n'a d'expérience et pour lequel on ne connaît rien. On sait que ça va arriver, c'est le seul élément certain d'ailleurs de la vie, c'est que ça va arriver. Mais personne ne sait ce qu'il y a après. Alors, soit on a la foi et on imagine, en fonction de la foi que l'on a, que l'on va ressusciter, que ceci, que cela, c'est une question de foi. Soit on n'en a pas, c'est mon cas. Et pour moi, c'est un peu comme un interrupteur, vous voyez. On, off. Vous retournez à l'état dans lequel vous étiez avant de naître, où vous n'étiez rien non plus. Voilà. Je suis très matérialiste au sens philosophique du terme, je ne suis pas matérialiste au sens financier du terme, sinon je n'aurais pas créé une ASBL qui verse tout ce que je récolte pour dans le cadre plutôt de mes conférences à des œuvres. Hein. Je garderai ça pour moi, ce n'est pas le cas. Donc voilà, il y a cette fascination-là qu'il y a pour un truc qui va nécessairement arriver, dont on ne sait rien et qui nécessairement, automatiquement, génère de l'angoisse.
Jodie,
je ne sais pas si vous vous souvenez, ici dans cette émission, j'avais fait une recommandation une fois et c'était l'audiobook de Philippe Bouxeau. Déjà, je voulais vous remercier parce que c'est rare quand c'est l'auteur qui lit ses propres bouquins, d'autant plus qu'avec votre voix et votre façon de raconter, vous ajoutez toujours un petit soupçon de cynisme et de... Comment vous êtes arrivé à finalement accepter aussi de lire vos propres bouquins?
Bon, on me l'a proposé, comme je ne suis pas un gamin compliqué, je dis souvent oui. Ma difficulté, c'est d'arriver à dire non hein, et de ne pas me perdre d'air. Mais ici, en l'occurrence, les deux premiers maintenant sont lus en audio-livre. Il y a des gens qui m'épatent, ils viennent en dédicace et ils me disent, écoutez, je vous écoute pour dormir. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Je mets mes écouteurs et je vous passe en boucle, soit chez Guillaume Play, hein, la fameuse chaîne légende qui a propulsé les bouquins d'ailleurs. C'est Guillaume Play, c'est ça?
En France surtout, oui.
Ah oui, oui. Ouais. Écoute, depuis que je suis passé chez Guillaume, on est passé de plus ou moins 50 000 livres vendus en un an à 1 million de livres vendus. Oh. Donc le passage chez Guillaume a été quelque chose de terrible. Pour lui aussi, sa chaîne a grandi de la même manière.
Il change de bon procédé. Ouais,
vous avez les trois vidéos les plus vues de sa chaîne, hein, vraiment, c'est vous.
Oui, oui. Oui, c'est pas fini. Encore. Et ici, donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et je me rends compte que beaucoup de femmes, il n'y a jamais un homme qui m'a dit ça. Mm-hmm. Heureusement, ma femme n'est pas jalouse, sinon je crois que j'aurais des problèmes. Mais, beaucoup de femmes m'écoutent pour s'endormir. Mais allez, quelque part, c'est un peu navrant, ça veut dire que j'ai une voix qui endort tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire?
Je vois. Non, mais c'est vrai parce que généralement, bon, que ce soit un audiolivre, voilà, on les connaît, mais quand, généralement, quand on lit un livre, on entend déjà la voix de la personne. Et là, vous avoir vraiment, c'est quelque chose en plus, donc oui, merci.
De rien, vous n'avez pas les images.
Alors, pour revenir aux origines de votre métier aussi, vous avez, c'est en assistant par hasard à une autopsie que vous tombez amoureux de ce métier.
Ouais.
Comment on tombe par hasard sur une autopsie? Moi, ça m'est jamais arrivé.
Eh ben non, on n'avait jamais fait d'études de médecine.
Ah
ben voilà. Donc, je faisais avec un de mes collègues, Michel Trifot, on faisait de la recherche en anatomie. C'est-à-dire que sur les cadavres, on cherchait comment un muscle qui se trouve dans le dos, qui s'appelle le grand dorsal, était irrigué pour pouvoir en prendre non pas la totalité, mais des portions, en étant certain qu'il ne meurt pas. Donc, en ayant une bonne vascularisation. Bon, c'est compliqué, on va sortir de là sinon. Et pour voir la vascularisation, Michel avait mis au point un système qui permettait d'injecter des produits radio-opaques. Radio-opaque, ça veut dire on injecte dans les vaisseaux du produit qui apparaissent à la radio et qui permettent de visualiser tout l'arbre artériel et veineux du muscle. C'est ainsi que je me suis retrouvé avec des morceaux de muscle à faire analyser par radiographie, mais on n'avait pas d'appareil de radio. Il y en avait un en médecine légale. Donc il y avait 500 mètres à faire en voiture, ce qui m'a d'ailleurs valu un contrôle policier qui devrait être dans les annales de la police quand ils se sont rendus compte de ce que je transportais en coffre, jusqu'à l'Institut de médecine légale. Et là, la salle de radio juste à côté de la salle d'autopsie, plusieurs fois j'y suis allé, il se passait rien en salle d'autopsie, et une fois je suis passé, ils étaient en train d'autopsier et... Je suis resté.
Vous êtes tombé amoureux. Ouais. En plus de 30 ans de carrière, vous avez donc examiné quelques 6000 cadavres, réalisé près de 3000 autopsies et livré des centaines d'expertises en cours d'assises. Est-ce qu'il y a une autopsie en particulier qui vous a marqué? Difficile d'en choisir une, j'imagine.
Ouais, mais... non, je ne ferai pas ça, mais je vais vous expliquer. Celle qui marque le plus, pour moi, pour mes collègues, c'est peut-être pas la même chose, mais celle qui concerne les enfants. Ce sont des autopsies que l'on fait parce qu'il faut les faire et parce que la justice doit pouvoir évoluer, c'est-à-dire être rendu, mais on le garde en tête. On le garde en tête qu'on l'a fait. Et chez moi, c'est marrant, c'est les autopsies que j'ai effacées. Donc, je sais que je l'ai fait, mais ça me demande un effort pour encore me souvenir que je l'ai fait.
Gros souvenir. Forcément, on a plein de questions à vous poser aussi sur ces autopsies. Est-ce qu'il y a une autopsie totalement folle auquel vous pensez aussi?
Des folles, non, on n'en a pas.
Pas folle?
Non, folle, jamais. La salle d'autopsie est un lieu extrêmement réglementé, mais de par nous-mêmes. Hein.
J'imagine, mais je parlais plutôt d'une histoire folle qui a mené...
Des histoires folles, il y en a plein. Il y en a plein, les livres. C'est la plus folle que j'ai eue, c'est de me rendre compte de quoi quelqu'un était mort en l'autopsiant, parce qu'on ne savait pas avant de quoi il était mort, mais on avait un doute. C'est-à-dire qu'il y avait une perte de sang par l'anus, et c'est à l'autopsie qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une perforation qui avait emporté tout le rectum, qui avait complètement détruit aussi le foie, parce qu'un objet était rentré par le rectum et avait cassé le foie en y pénétrant de façon un peu absurde.
Oui, bon appétit à ceux qui
ouais, bien sûr. Voilà, ouais.
Non, parce que c'est vrai que moi je suis tombé sur pas mal de vos histoires, notamment des situations loufoques. Une fois, vous avez dû faire une autopsie chez un particulier avec sa femme qui rentre ou son mari qui rentre, et vous avez dû, d'une certaine manière, cacher une certaine vérité justement à l'un de ses proches pour éviter de révéler finalement un adultère. C'est un peu ça, non?
En fait, on ne révèle jamais rien aux proches, sauf si le procureur le permet. Donc le système judiciaire fait que je ne peux pas parler d'une affaire à quelqu'un sans en avoir d'abord référé au magistrat qui m'a requis.
Ah, mais cette personne rentre à l'appartement.
Cette fois-là, c'était un truc terrible. L'amant s'était pendu. Pourquoi? Ben parce que sa maîtresse ne voulait pas le conserver comme l'homme au quotidien, quoi, hein, on va dire comme ça, comme son compagnon. Comment on dit?
Officiel.
Officiel, voilà, on peut le dire comme ça. Mais le mari allait revenir. Et donc, j'estimais que ce n'était pas à nous de dire au mari qu'il était cocu. Donc, ce que j'ai fait, c'est faire transférer le corps en urgence et en vitesse. Et quand le corps est sorti de l'immeuble, le mari rentrait. C'est le problème de la femme, c'est pas le nôtre. C'est ce que j'ai toujours défendu. Ce n'est pas à moi d'aller annoncer à quelqu'un qui a eu un problème dans son appartement. Il est rentré dans son appartement, je pense qu'il n'a absolument rien vu. Sa femme lui a parlé, lui a pas parlé, c'est pas mon problème, c'est le sien.
Mais ça, c'est fou. Il y a quand même un classement qui existe aussi des morts les plus stupides, c'est les Darwin Awards, je pense.
Ouais. Vous avez non, j'ai jamais regardé. Et c'est quoi la mort la plus stupide?
Il y a plein de... Je crois que j'en ai vu où c'était un gars qui testait les vitres.
Elle était un testeur de vitres et en fait,
elle était un testeur de vitres parce qu'il est passé à travers.
C'était un assez haut building. Il y a déjà eu des morts un peu stupides, peu idiotes.
On en a plein. Les morts les plus stupides que l'on ait, et j'attire l'attention de tout le monde là-dessus, c'est la mort dans les escaliers. Pour moi, c'est la mort la plus stupide qui soit. Un escalier, c'est fait pour être monté, pour être descendu. Il faut avoir des marches qui ne soient pas glissantes, sinon on met des antidérapants. Et surtout, on ne descend pas l'escalier, ni en chaussettes, ni avec des pantoufles qui ne sont pas fermées derrière. Oui. Une espèce de sandale de merde, là, qui fait qu'elle dégage rapidement. Et alors, vous vous retrouvez dans l'escalier, bam, 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 paf, on prend le mur droit devant, on meurt.
Bah, c'est des morts,
mais
hein.
D'une stupidité.
C'est particulièrement stupide, ça peut arriver à tout le monde.
Oui.
Il n'y a pas une autre mort un peu plus loufoque?
Mais il n'y en a pas une, hein. Il y a un cas qui voulait se pendre et la corde à la chaise.
Ah oui, comme ça. Ça, c'est un monsieur qui veut... Mais vous savez, quelqu'un qui veut mourir, c'est un drame. Hein.
Ah oui, bien
c'est
sûr.
Un drame humain. Et moi, j'arrive à en faire rire les gens. Parfois, ça m'est reproché, ça, par l'un ou l'autre. Je raconte cette histoire. C'est un monsieur qui décide de se pendre parce qu'il en a marre de la vie. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Et il est sur sa terrasse. Il a un crochet au plafond de sa terrasse. Il est en plein air, donc. Hein. Il passe la corde au crochet. Et là, il est debout sur une chaise. Mais il a décidé qu'il allait mourir de deux manières différentes pour être sûr de ne pas se rater. C'est pas idiot, hein. Et là, il prend un flingue. C'est une carabine 22. Il se la met en bouche. Il tire. Mais il tire mal. Et au moment où il tire, en même temps, il se laisse pendre. La balle est rentrée dans la bouche. Elle n'a pas touché le cerveau. Elle n'a pas touché la boîte crânienne. Elle est sortie de la bouche. À l'angle de la mâchoire, elle a cassé la mâchoire, mais elle est sortie de la bouche. Elle a coupé la corde, il est tombé en avant et il est mort d'une fracture du crâne. Rien à voir avec ce qu'il avait prévu.
Finalement, il a quand même réussi. Il ne l'avait pas prévu, mais il a réussi.
Moi, par rapport à tout ça, je dis toujours que la mort, il faut la démystifier. On ne rigole pas du gars qui est mort, parce que pour lui, c'est un vrai drame. Maintenant, il a ce qu'il voulait aussi.
Oui.
Pas perdre ça de vue. C'est sa volonté personnelle et elle doit être respectée. D'un côté, et de l'autre côté, rire de la mort, c'est le seul moyen d'en sortir.
Ouais. J'ai parlé la semaine dernière d'un film qui s'appelle Destination Finale,
oui,
qui peut-être pourrait vous plaire parce qu'il y a des morts.
C'est le dernier que vous avez vu.
Tout à fait, ouais.
Je l'ai vu en avant-première. C'est formidable.
Vous pensez, vous, au déterminisme aussi de la mort, non, avec une histoire qui est déjà écrite, là, par exemple?
Il y a mon photo qui tombe dedans. Ouais. Non, je ne crois pas au déterminisme de la mort. Mais ce qui est très amusant dans ce film, c'est qu'on sait que tout le monde va mourir. On s'y attend. Et tout le monde s'en fout. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. J'ai regardé le film avec beaucoup de plaisir. Bon, comment est-ce qu'ils vont le faire mourir, celui-là? Qu'est-ce qu'ils vont trouver? C'est un film formidable.
Incroyable, hein.
Mais c'est un film qu'il faut prendre au deuxième, oui, troisième, quatrième degré. Hein.
Ça reste du cinéma.
Ça, j'adore. C'est du cinéma, il faut le prendre comme ça.
Et d'ailleurs, sur votre métier aussi, on voit beaucoup de médecins légistes. Ça vous saoule un peu la manière dont on représente votre métier dans les séries américaines, pour ne pas les citer?
Ça me met surtout dans les séries américaines. Si vous voyez une femme, c'est toujours un canon.
Ouais. C'est pas comme ça.
J'ai dit plus jouer dedans.
C'est pas comme ça en vrai.
Ah si. Non mais c'est juste, sont très belles femmes. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est par comparaison aux hommes. Les hommes, ils sont toujours vieux.
Des rats de laboratoire.
Hein. Ah oui, ouais. Oui, on les voit, ouais, juste, ouais, là-bas dans la
quand ils sont pas vieux, ils sont, ouais, handicapés. S'ils sont pas vieux et handicapés, ils sont parfois même franchement débiles. C'est une vision qui ne correspond pas à la réalité objective qui est la nôtre.
J'avais une autre question. Est-ce que le crime parfait, ça existe ou pas?
Oui, bien sûr.
Oui.
Oui.
Vous y avez déjà assisté ou pas?
Ah bah non, crime, mais si j'avais assisté,
par contre.
Si j'y avais assisté, il serait pas parfait.
Effectivement.
Donc, on sait que le crime parfait existe parce qu'on ne nous utilise pas assez. Et c'est un message que j'essaie de faire passer à travers mes livres. Vous savez, le premier bouquin, je l'ai écrit, les autres aussi, pour attirer l'attention et du public et du gouvernement sur le fait qu'on est juste en train de crever la gueule ouverte, les médecins légistes en Belgique, d'une part, et d'autre part, parce qu'aussi, on n'a aucun moyen, on n'est pas considéré par la justice, les magistrats non plus. Hein. Quand vous voyez ce qui se passe là maintenant, waouh, c'est quand même un monde. Or, c'est une des fonctions régaliennes du gouvernement, une des fonctions régaliennes de l'État, c'est de préserver sa justice. Donc, objectivement, là, il y a un gros, gros problème. Et en Belgique, nous étions une quarantaine de médecins légistes vers les années 2000, nous sommes encore un peu plus de 20 aujourd'hui. Donc, il y a une diminution affolante du nombre de médecins légistes. C'est pas que c'est une profession qui n'attire pas, mais c'est une profession dans laquelle on reste pas à cause des conditions de travail. Et en Belgique, il faut quand même dire que l'Europe a attiré l'attention de la Belgique sur un phénomène important, c'est que nous autopsions 10 fois moins que la moyenne européenne. Ça veut dire que en Belgique, il y a des gens qui ne sont pas autopsiés alors qu'ils mériteraient de l'être. Ça veut dire aussi, c'est le professeur Boutier de l'Université libre de Bruxelles qui ont fait cette étude, qu'il y a 70 à 80 meurtres en Belgique qui passent au bleu tous les ans. Donc oui, le crime parfait existe, il suffit de ne pas envoyer le légiste.
C'est effectivement un constat assez fou, et on espère aussi que votre notoriété, vos livres aussi, pourront inciter des jeunes, même si les conditions ne donnent pas envie, vous l'avez expliqué. Je rappelle quand même aussi cette autre actualité pour vous. Philippe Boxeau, vous avez été nommé héros de l'Omé Gang cette année. Qu'est-ce que ça vous... Faites bien de vous relever.
Vous faites bien.
Moi, parfois, ça descend aussi.
J'avais touché le sol.
Qu'est-ce que ça vous a fait quand on vous l'a annoncé?
C'est un drôle de... C'est Paul Legrand, hein, qui est l'organisateur de l'Omé Gang, avec qui je fais une émission de radio. On se connaît bien, on s'entend très très bien, qui me dit, écoute, j'ai un problème, mon héros ne me répond pas, celui qu'on avait choisi, est-ce que tu veux bien l'être, t'es quand même connu. Je dis, bah oui, avec plaisir. En fait, je suis dans une période de ma vie un peu particulière, je suis pas loin de la retraite, et il arrive cette espèce de célébrité là, et je me dis, beaucoup de choses sont bonnes à prendre, ce sont de belles expériences, tout le monde ne fait pas ça, ça vaut la peine. Et l'Omé Gang, on rentre dans une situation qui est à la fois du folklore bruxellois, mais qui s'inscrit dans l'histoire de la Belgique, de Bruxelles, oui, mais aussi de la Belgique, avec Charles Quint. Et j'aime l'histoire, et j'aime cette période de l'histoire, donc je m'y sentais bien.
Vous aimez l'histoire? En parlant d'histoire, est-ce qu'il y a une personnalité historique que vous auriez aimé autopsier?
Napoléon.
Ah, directement?
Ah oui, mais ça depuis toujours.
Pourquoi Napoléon?
Parce que Napoléon, on a toujours dit qu'il est, enfin, certains prétendent plutôt, on va le dire comme ça, qu'il a été empoisonné avec de l'arsenic et qu'il en est mort, et moi je suis persuadé que c'est pas vrai. À cause j'ai lu son livre de santé tel que rédigé par les médecins qui sont occupés de lui. J'ai lu le mémorial de Las Cases. J'ai lu les mémoires du Mamelouk Ali, etc., etc. Il n'est pas mort de ça. Jamais, jamais, jamais. Il est mort d'une défaillance polysystémique sur une hémorragie digestive. Il est, à mon avis, mais il n'est certainement pas mort d'une intoxication à l'arsenic. C'est pas possible. Donc j'aimerais bien l'ouvrir sa tombe pour voir un peu ce qu'il y a encore moyen de dire.
Peut-être un jour.
Ouais, j'ai un gros doute quand même.
Ouais. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a des histoires vraies et vous mettez les noms de vos potes, hein, évidemment, à la place des victimes,
vous évitez
les
problèmes. C'est un peu compliqué.
Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que vous avez sauvé une maison d'édition avec justement les éditions Kenes, avec les chiffres absolument dingues de vos livres. Comment est-ce qu'on gère cette notoriété qui arrive un petit
c'est
peu
C'est difficile.
Presque par hasard pour
c'est
vous. Hein.
Très difficile parce qu'on n'y a aucune formation pour ça. Ça tombe dessus et si vous ne prenez pas le gros coup et. On n'a pas l'impression que votre...
Mais cette année, vous êtes peut-être le Belge le plus connu de l'année 2025. Hein.
Oui, mais je m'en fous.
Même 2024.
L'avantage, c'est que je m'en fous et que je n'ai rien changé du tout à ma façon de vivre. J'ai la même bagnole, j'ai la même femme, j'ai les mêmes enfants, j'ai la même maison, tout est pareil. J'ai le même pote avec qui je veux manger à midi. On ne parle jamais de ça. Donc, je vis une vie tout à fait normale.
On vous laisse tranquille au restaurant, par exemple?
Non. Non. Enfin, ça dépend de quel restaurant je vais. À Liège, je suis super connu partout, mais depuis... Déjà longtemps, Liège, c'est un petit village. Hein. Donc quand je vais dans un restaurant, on est les habitués, on se connaît, on se fait la bise, on papote, comment va ta fille, etc. Donc voilà, je vais toujours dans le même restaurant, je ne me trompe pas. Et par contre, c'est les trajets en rue qui sont parfois compliqués. On se fait arrêter, on se fait reconnaître. C'est amusant, c'est très sympa. Les gens sont adorables, mais vraiment. Mais croyez-moi, j'en ai pas le melon.
Donc vous n'avez pas cette angoisse que tout s'arrête un jour peut-être?
Ah mais non, mais je veux que ça s'arrête. Je l'ai écrit dans un de mes livres. Moi, je veux retourner à l'anonymat, je veux retrouver ma vie d'avant, je veux retrouver mon métier d'avant, parce que depuis maintenant quelques mois,
temps, tout ça, j'imagine.
J'ai plus le temps devant un cadavre. Quoi. Donc j'ai envie de retourner.
Je veux revoir mes cadavres. Il y a aussi un quatrième livre qui sort d'ailleurs.
Ouais, c'est-à-dire
si vous bossez le 27 août, la mort, c'est ma vie, ça avance bien?
Il est fini.
Ah, il est fini là.
Ouais, ouais.
Ah oui, il faut parler aussi de la couverture aussi.
Il y a des fautes que vous dites. Ah, il y a une faute.
Oui, oui.
Alors, les deux personnes vous voyez là en blanc, ce sont mes filles. Il y a Marie, Émilie et Margot. Et puis là, devant, vous me reconnaissez. Hein,
oui, ouais, on a vu. Je crois que c'était
pas
trop
qu'on en efface ma protubérance abdominale naturelle. Et je suis.
Derrière.
Comme ça, derrière la bande.
Alors, ça, c'est interdit, ça.
C'est interdit.
C'est ça.
Et je le dis dans mon bouquin. Ouais, c'est une condition pour que la photo soit prise et qu'elle colle pour le bouquin, mais c'est pas une condition dans le cadre de la réalité technique.
On a très hâte de le lire en tout cas. Et puis comme le succès ne vous quitte plus, la Boxomania pourrait bientôt être adaptée à l'écran aussi.
On en parle. Oui.
On en parle.
On fait qu'en parler pour l'instant. Hein. Ça parle beaucoup.
Ça
parle beaucoup. Oui, on va se calmer. Ça va pas arriver tout de suite. Ce qui va arriver vite, c'est une bande dessinée de Pierre Alary qui va sortir. Au mois de janvier 2026. Et l'adaptation en livre de poche du premier bouquin va se faire aussi bientôt.
Voilà, le succès ne vous quitte plus. On espère quand même que vous retrouverez vos cadavres.
Mais moi, je veux que ça s'arrête. Donc,
s'il vous plaît, arrêtez d'acheter les livres.
Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste que je ferai encore éventuellement un cinquième. Mais en même temps, mes histoires, je ne les invente pas. Donc, si, j'invente l'histoire, mais je n'invente pas le fond médico-légal.
Il y a un moment donné où j'aurais plus rien à raconter, je m'arrêterai.
Vous avez fait beaucoup d'autopsies quand même.
Oui,
il y a de quoi faire. Oui, mais elles ne sont pas toutes intéressantes à amener dans un bouquin.
Philippe Boxo, merci, vous restez encore un tout petit peu avec nous, puisqu'on va découvrir les images du jour.